Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour un nouveau Au fil des pages, où j'ai le grand plaisir de recevoir un auteur, Jean-Michel Quatrepoint, qui vient de faire paraître chez Les Mille et Une Nuits un essai qui a été particulièrement remarqué, La crise globale, on achève bien les classes moyennes et on n'en finit pas d'enrichir les élites. Jean-Michel Quatrepoint, bonjour.
Bonjour.
Quel beau patronyme. Je vous disais que vous étiez, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais quand même rappeler que vous êtes un journaliste de renom, que vous avez occupé des fonctions importantes dans la presse économique nationale. Vous avez été directeur de la rédaction de plusieurs titres économiques nationaux, la GFI, la Tribune, le Nouvel Économiste. Et vous étiez le directeur, le rédacteur, je ne sais pas exactement, de la lettre A.
Moi, j'étais le propriétaire, directeur.
vous cumuliez les fonctions. Hein. On va donc revenir maintenant sur votre ouvrage. Votre thèse centrale, c'est de dire qu'en fait, toutes les crises énergétiques, les crises financières, les crises alimentaires, ont un dénominateur commun qui est celui de la tentative de triompher pour le capitalisme mondial après la chute du mur de Berlin. Alors, est-ce que c'est bien ça, votre thèse ?
Oui, c'est la globalisation. C'est une thèse sur la globalisation, sur ses avantages et sur ses inconvénients. Ce qui m'a intéressé, c'est de reprendre sur 30 ans, le début de la globalisation. Alors, en fait, il faut bien comprendre que l'économie, ce sont des cycles. On a déjà connu un capitalisme global entre 1860 et 1914 et jusqu'à 1929 pour les États-Unis. Ce capitalisme global avait des caractéristiques les mêmes qu'aujourd'hui. Un très grand dynamisme, un libre-échange forcené, des enrichissements très rapides, une grande pauvreté aussi, mais la constitution de classe moyenne dans un certain nombre de pays, notamment à l'époque, dans ce premier capitalisme global, c'était dans le Commonwealth, Canada, Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, classe moyenne aux États-Unis, etc. Donc, il y avait à peu près les mêmes caractéristiques. Mais comme toujours, il y a action et réaction. Ce capitalisme global a été trop vite, trop fort, et il s'est fracassé en Europe avec la guerre de 14 et aux États-Unis avec la crise de 29. Ensuite, le capitalisme a trouvé un nouveau modèle avec Roosevelt, le New Deal, et après 1945, avec ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Et ce modèle a été un capitalisme relativement vertueux car il avait un compétiteur. Ce compétiteur, c'était le communisme. Et le capitalisme n'est jamais aussi bon que quand il a de la concurrence. C'est le fondement même du capitalisme. Et il a été obligé de fabriquer plus de richesses que les communistes, bien sûr, de redistribuer ces richesses, de mieux partager la valeur ajoutée entre le travail et le capital. Et c'est pour ça qu'il a gagné contre le communisme, parce qu'il y avait les libertés en plus. Mais comme toujours, on était trop loin dans l'excès d'État-providence et progressivement, ce capitalisme s'est ossifié, notamment aux États-Unis. Et vous avez eu des grands conglomérats, ce qu'on dit « big labor, big corporation, big state », trop d'États, trop de syndicats corporatistes qui gelaient tout et trop de conglomérats qui n'innovaient pas simplement. Parce que le capital, la rémunération du capital était devenue insuffisante, donc le capital n'investissait plus. La part du travail était devenue trop importante. Et c'est là où intervient la révolution des, ce qu'on appelle les Reaganomics, c'est-à-dire la révolution néolibérale née chez les anglo-saxons, pas seulement à l'université de Chicago, mais aussi à Londres, et avec l'idée de revenir aux sources du capitalisme, Adam Smith, Ricardo, mais aussi Schumpeter, Hayek, etc., le dynamisme, le chaos salvateur, etc.
C'est ce qui s'est passé
en 1980. Ouais. Et je pense que c'était nécessaire à l'époque. Et pour les Américains, c'était absolument nécessaire. Mais Reagan est arrivé pour appliquer un contenu idéologique. Et il appliquait ce contenu dans les années 80, avec une vraie stratégie. Des décisions, ils ont cassé les syndicats, ils ont cassé les conglomérats, ils ont misé sur l'innovation. Et aussi, et surtout, ils ont fait un deal qui a été peu remarqué à l'époque. Ça a été le deal presque contre nature entre le Parti communiste chinois et le capitalisme anglo-saxon.
Chacun se tenant par la barbichette.
Et ça commence là. Et ça a été d'ailleurs la grande force et la lucidité de Deng Xiaoping, qui a engagé son pays sur la voie de l'économie de marché. Mais pour aller sur la voie de l'économie de marché, il fallait faire alliance avec la Chine contre l'URSS.
Oui, alors donc on est rentré à ce moment-là dans une économie de dette, on va y revenir. Mais je voulais souligner que vous avez un style qui est particulièrement agréable, souple et aéré, et je voudrais lire, pour résumer ce que vous venez de dire, un passage de votre ouvrage à la page 24. Ce sont les conséquences, les dérives d'un processus entamé voilà près de 30 ans, lorsque le capitalisme anglo-saxon a décidé de revenir aux sources du libéralisme. Pendant près de 3 décennies, la globalisation s'est progressivement imposée aux 4 coins du monde, avec une phase ascendante dans les années 80, où le libéralisme a pris sa revanche sur les autres systèmes, avec une apogée dans les années 90, où l'alliance sino-américaine, Internet et la financiarisation de l'économie ont fait croire au triomphe définitif de la mondialisation, trop rapide, trop forte, trop brutale. Elle débouche après le 11 septembre 2001 sur une sorte de spirale infernale, une fuite en avant des pays occidentaux dans une économie de la dette qui plonge le monde dans une crise globale. Je crois que ça résume parfaitement votre thèse centrale et donc ça me permet de faire la liaison avec ce que je disais juste avant, à savoir nous rentrons dans une économie de dette. Le consensus de Washington n'y peut rien et le modèle américain est donc l'archétype de ce modèle de la dette. Alors, selon vous, quelle est la part de responsabilité dans ce phénomène, dans la crise générale ?
Alors, ce que je n'aime pas, c'est les boucs émissaires.
Oui.
Et on voit bien aujourd'hui, c'est le propre des médias et des politiques aussi, de cibler des boucs émissaires. Les banquiers ont une énorme responsabilité, les traders ont une énorme responsabilité, mais ce n'est pas la seule. Ils sont le produit d'un système. Et la responsabilité, elle serait aussi peut-être à rechercher du côté des multinationales, dont on parle peu. Parce que cette globalisation, elle a été faite par et pour le Standard & Poor's 500. Standard & Poor's 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc ce sont les multinationales qui, dans les années 90 notamment, ont délocalisé massivement, non pas pour aller conquérir de nouveaux marchés, non pas pour aller produire sur place dans ces marchés émergents, mais pour y produire et réexporter vers les marchés de consommation, vers l'Occident. Et au passage, on détruit les emplois à valeur ajoutée en Occident, dans les pays occidentaux, européens et États-Unis. Et c'est ça, je crois, qui a été grave toutes ces dernières années.
Un mot quand même au passage de l'Europe, que vous ne manquez pas de d'égratigner, avec un titre qui est assez amusant, une Europe ricardienne. Alors je préviens nos auditeurs qu'il ne s'agit pas du Ricard que nous connaissons. Hein. C'est l'autre...
Ni Rocard.
ni même Rocard. C'est donc de Ricardo qu'il s'agit. Donc, alors quelle est votre thèse là ?
Ma thèse, c'est que les Européens, notamment les Anglais qui connaissent bien Ricardo et Adam Smith, ont parfaitement compris qu'ils allaient se spécialiser. Et donc les Anglais ont choisi un modèle, Tony Blair, vous avez commencé avec Margaret Thatcher, mais Tony Blair l'a accéléré, c'est le modèle de la finance. On devient le centre mondial de la finance, de l'expertise financière, et de l'immobilier, et de tout ce qui est les services autour des flux. On vit sur les flux. Les Espagnols les ont un peu copiés avec un modèle immobilier, banque, immobilier, crédit, BTP, etc. Les Allemands, eux, ont été sur leur point fort naturel, qui a été l'industrie. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les Allemands sont les seuls à avoir des excédents commerciaux aujourd'hui, car ils ont misé sur l'industrie de biens d'équipement que l'on ne peut pas délocaliser aussi facilement que ça, et que les pays émergents ont besoin de ces machines pour fabriquer les produits de biens de consommation. Le drame, un peu en France, c'est que nous n'avons pas choisi à l'époque. On a voulu faire un peu de tout et on a failli abandonner l'industrie. Et le contre-modèle pour moi, c'est une société comme Alcatel qui s'est imaginé qu'on pouvait faire une entreprise sans usine et sans travailleurs. Parce qu'au bout du compte, cette revanche du capital sur le travail, c'est supprimons le travail. Supprimons le travail des travailleurs. Il n'y a que des problèmes avec ces gens-là. Donc, on fait de l'outsourcing. Excluons tout ça et devenons une société qui passe des commandes aux quatre coins du monde, qui importe et qui vit des flux et qui fait un peu de marketing. Au passage, d'ailleurs, on oublie beaucoup le client. Car une de mes idées, ce qui m'a frappé, c'est que dans cette économie, ces dernières années, vous avez deux victimes. Le producteur, quel qu'il soit, toujours moins cher, on le paye toujours moins cher, et finalement le consommateur en bout de course. Car le consommateur existe de moins en moins, contrairement à ce que l'on croit. C'est le prospect qui existe. Tout l'investissement des entreprises va pour conquérir des clients, des prospects. Et le jour où vous devenez un client captif, vous n'existez plus. Hein, on vous renvoie de centre d'appel en centre d'appel. Puis de toute façon, comme on fait des produits, c'est l'obsolescence programmée, on fait des produits pour être jetés. Donc à la limite, si ça se casse, ben, on vous change de produit. Et encore, si vous arrivez à joindre le centre d'appel qui se trouve à l'autre bout du monde.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que vous dites là, effectivement, vous le reprenez au niveau français. Je voudrais citer un passage de votre ouvrage à la page 173. Et vous dites des choses suivantes. Vous avez des mots un petit peu durs. Hein. Un pays qui devient la zone de repos privilégiée des guerriers économiques anglo-saxons, germaniques et autres. Il y a un peu plus de 60 ans, un homme, Adolf Hitler, avait déjà assigné à la France un tel rôle dans sa Europa, l'Europe du Grand Reich. Nos élites aiment le CAC 40. Elles n'aiment pas, au fond, l'entreprise, la PME, le petit commerce.
C'est vrai.
Donc c'est ça. C'est
mais,
ça
c'est vrai, mais c'est vrai. Il faut parler clairement. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Nos élites incarnées par l'ENA, mais il n'y a pas que seulement que l'ENA. Et puis l'ENA était une grande école au départ, bon, et ça donne des gens de qualité. Cela dit, ces élites, qu'elles soient de gauche ou de droite, ont commencé à faire carrière dans l'État, et ensuite, elles ont tout naturellement pantouflé pour aller dans les grandes entreprises. Et les nationalisations n'ont pas rangé les choses, car ça élargit le cercle du pantouflage possible. Puis ensuite, on a privatisé. Donc les élites qui avaient pantouflé dans des entreprises nationalisées ont dit tout naturellement, bon, bah, finalement, l'air du temps, c'est de privatiser, donc on va se privatiser avec. Au passage, on aura effectivement quelques augmentations de salaire, des stock-options, des parachutes dorés, etc. Mais finalement, parce qu'ils baignaient dans l'air du temps, parce que c'était à la mode, parce que c'était le système global qui était comme ça. Donc, est-ce que l'on singeait.
D'accord. Est-ce qu'il n'était pas aussi soutenu par une pensée, dites-vous, libérale, libertaire,
de
certains médias dominants
qui portaient l'air du temps. L'air du temps.
D'accord. Il est encore un peu tôt pour parler des solutions, mais Dieu merci, vous en avancez quelques-unes. Une dernière remarque sur... on va revenir sur ce que vous dites tout à l'heure.
Je veux revenir un mot sur le CAC 40.
Oui, mais c'est vrai, tout à fait.
Parce que les entreprises du CAC 40, pas toutes, hein, je pense qu'il faut faire la différence entre les entreprises qui ont encore un caractère familial. Je pense à Michelin, par exemple. Autrefois, on dénonçait en Michelin une entreprise paternaliste, etc. Il y avait du vrai. Cela dit, aujourd'hui, on en vient à regretter le capitalisme paternaliste. Car Michelin est attaché à son territoire, à Clermont-Ferrand. Hein? Le risque, c'est qu'un jour, Michelin, comme n'importe quel grand fabricant de pneumatiques, considère Clermont-Ferrand comme un anachronisme, et hop, on supprime le siège, on supprime 5000 emplois d'un coup, on s'en fiche. Non, Michelin estime encore avoir une responsabilité avec son territoire. Et je pense que d'ailleurs à l'avenir, il va falloir que les multinationales, si elles veulent retrouver un certain crédit au sein de la collectivité dans laquelle elles baignent, vont devoir relocaliser sur les territoires une partie des productions. Ce qu'elles ont oublié, et Carrefour, Walmart, Carrefour a voulu appliquer le modèle Walmart, c'est-à-dire je fabrique tout là où c'est le moins cher, hein, et au passage j'augmente mes marges.
Je reviens après cette parenthèse donc à nouveau sur les multinationales, sur le mal français. Et là, vous vous distinguez dans vos réflexions sur deux points qui sont très intéressants. En disant, en tête de chapitre, il y a dette et dette, et donc on va y revenir. Et la deuxième, c'est que vous prenez la défense des baby-boomers, alors que dans l'air du temps, il y a une sorte d'autoflagellation contre cette génération. Alors commençons d'abord par la dette et dette.
J'en fais comme vous partie. Bon.
C'est vrai.
Mais nous n'avons pas le sentiment d'avoir failli.
Oui, absolument.
Hein,
absolument.
Nous avons travaillé.
Alors vous dites ça pourquoi ? Donc en résumé.
Mais parce que, si vous voulez, chaque génération, le principe, notamment pour les retraites, c'est le problème. Oui. Bon, le principe de la retraite par répartition, à laquelle je suis attaché, qui peut être complémentaire des retraites par capitalisation.
Absolument.
Mais on voit les limites du modèle de retraite par capitalisation. Les Américains et les Anglo-Saxons commencent à comprendre leur douleur. Hein. Donc la retraite par répartition, c'est les actifs financent pour partie la retraite des inactifs. Bon. Nous avons financé la retraite de nos grands-parents. Nos grands-parents avaient connu deux guerres et ils n'avaient pas cotisé. Hein? Quand ils ont pris leur retraite dans les années 50-60, eh bien, c'est notre argent qui les a financés. Mais c'était tout à fait normal. Ils avaient connu deux guerres et c'était la solidarité intergénérationnelle. De la même façon, nos parents ont très peu cotisé.
Très vrai. Hein?
Et eux ont commencé à vivre beaucoup plus longtemps aussi. Bon, ben on a financé leur retraite. Bon, mais c'est normal. C'est-à-dire, nous avons travaillé et aujourd'hui, si vous voulez, ça fait partie du pacte social. Si on commence à remettre en cause et à introduire la notion de guerre des générations après la guerre des classes, etc., on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas toujours, c'est pour ça que je n'aime pas non plus les boucs émissaires qu'on tape sur les X, Y, Z. De la même façon, on ne va pas faire des affrontements intergénérationnels. Chaque génération a ses tares, ses avantages, ses inconvénients, a eu ses défauts. Bon, nous avons tous fait collectivement des erreurs, hein, mais les jeunes aussi en font, je veux dire. Il ne faut pas tomber dans le jeunisme non plus. Bon.
Absolument. L'autre facteur qui certainement dessert la nouvelle génération, celle qui nous suit, vous et moi, c'est probablement que ce sont des facteurs psychologiques, c'est-à-dire que c'est la crainte de l'avenir, c'est demain sera moins bon que ce que mes parents ont connu.
C'est ça qui est
très
grave.
Et c'est par ailleurs aussi la superposition probablement avec l'espérance de vie des générations pendant plus de temps. Et donc, bien entendu, la crise financière ne fait qu'en rajouter avec un doute général, une perte de confiance, une perte dans l'avenir. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux.
Je crois que le problème que nous avons dans nos sociétés, c'est qu'effectivement on vit plus vieux, mais on rentre de plus en plus tard dans la vie active, avec un échec, reconnaissons-le, pas seulement en France, d'ailleurs, de l'éducation nationale. C'est le plus grand échec de la France.
Mais ils font beaucoup d'efforts récemment.
Ils essayent, mais vous ne remontez pas ça en deux temps, trois mouvements. Bon, lire, écrire, compter, c'est quand même la base de l'éducation. Je crois que c'est un ministre de l'Éducation nationale qui avait une bonne formule, c'était Jean-Pierre Chevènement, c'est de dire que l'enfant n'est pas au centre de l'école. L'école, elle est là pour la transmission du savoir. C'est deux choses différentes. On n'est pas là pour faire plaisir à l'enfant. Non, on est là pour transmettre un savoir qui lui permettra de s'accomplir dans la société ensuite.
Et l'école n'est pas la propriété non plus des éducateurs et des
enseignants. Ni des éducateurs, ni des parents.
C'est ça, tout à fait.
C'est un bien collectif. Bon, et aujourd'hui, cette société, elle fait rentrer les jeunes de plus en plus tard dans la vie active sans leur proposer des emplois suffisamment intéressants, valorisants. Et ensuite, on fait partir de plus en plus tôt les seniors. Les seniors, ils ne demandent qu'à travailler entre nous. C'est vrai, mais à 55 ans, à 50 ans, les multinationales, encore elles dégraissent, à tour de bras. Même on est vu à 45 ans. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportements à réviser et qui ne sont plus du tout adaptés à la réalité de l'économie, de la globalisation, ne serait-ce que ça, d'aujourd'hui. Alors aussi, j'ai bien aimé donc, le développement que vous faites sur la dette, parce que, évidemment, dans tous les médias, on entend qu'un mot, c'est la charge colossale de la dette. Mais effectivement, vous mettez en perspective qu'en définitive, il faut distinguer la dette privée et la dette publique. Et quand on fait l'addition, je vous résume, finalement, les Français, on est plutôt bien placés.
Bien
et donc,
placé,
on n'a pas de complexe à avoir sur ce sujet.
Bon.
Et vous dites aussi qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de la dette.
Voilà. Alors, les Anglo-Saxons, par exemple, ont privilégié la dette des ménages. Encore que les Américains ont le même taux de dette publique que nous. Et là, ils sont en train d'exploser. Ils arrivent à 7%, à 7% de leur PIB. Bon. Mais les ménages américains sont à 140% de leurs revenus annuels disponibles. Les Anglais, pareil. Les Espagnols, pareil. Nous, nous sommes à 70%. Alors nous avons une dette publique qui est importante, oui, 65% du PIB, mais elle est dans la moyenne, c'est dans la moyenne. Et en face, nous avons de l'épargne, l'un des plus forts taux d'épargne du monde, 15%. Bon, les Américains ont moins de 1%. Donc nous avons une dette, une épargne qui finance cette dette aussi. Mais là, donc le problème que nous avons eu, c'est que toutes ces dernières années, la dette publique a gonflé pour payer les dépenses de fonctionnement. Et non pas pour investir. Et c'est ça qui est grave. Et nous avons un État aujourd'hui qui est paupérisé, comme les autres États dans le monde, comme les collectivités d'une façon générale, qui n'ont pas investi dans le futur et qui se retrouvent effectivement avec une charge de la dette importante, dette encore une fois faite pour payer les dépenses de fonctionnement. Bon, sans doute avons-nous trop embauché depuis 10 ans, notamment dans les collectivités territoriales. Sans doute... Y a-t-il eu trop de fonctionnaires ou parafonctionnaires depuis 15 ans ? Mais ça s'explique aussi, parce que le secteur privé n'embauchait plus.
Oui, absolument.
Donc, ça a été une compensation.
Très vrai. Alors, revenons, en fait, sous forme de conclusion du chapitre diagnostic sur ce que vous dites en page 283. Pour Michael Spence, prix Nobel d'économie en 2001, la grande erreur du consensus de Washington aura été de se focaliser sur les objectifs de stabilité macroéconomique. Cela a tourné au dogmatisme. Que peut-on faire d'un consensus qui ignore la microfinance et la microéconomie ? Donc pour vous, la grande erreur, ça a commencé avec le consensus de Washington.
Oui, le consensus de Washington... qui s'adressait d'ailleurs aux pays dits en voie de développement, qui en même temps se devait s'appliquer au monde entier. C'était dans cette perspective de la fin de l'histoire. Le capitalisme triomphait, le communisme s'était effondré, il y en avait presque pour 1000 ans. Hein, bon, la démocratie allait s'appliquer partout. Tout le monde était
selon
bon.
Selon les principes américains, bien sûr.
Voilà, selon les principes américains. Hein, puisque nous, ça marche chez nous, vous allez appliquer ça parce que et ça marche chez vous. Bon, c'est pas aussi simple. Parce que les cultures des peuples sont différentes, parce que les histoires sont différentes, parce que les climats sont différents, parce que la géoclimatique, ça existe.
Tout à
bon,
fait.
Quand on s'interroge sur l'Afrique, je pense que le climat joue un rôle. Bon, c'est pas aussi facile, on ne produit pas de la même façon avec 40 degrés que quand on est dans un climat tempéré.
Hein. C'est très juste.
Donc, je pense qu'on va revenir vers plus de terrain, plus d'initiatives locales, plus de régionalisme, non pas au sens région où l'entend en Europe, mais je pense de grands ensembles intra-régionales. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec la globalisation, on a sauté une étape. C'est l'étape de la trilatérale. Hein ? C'est-à-dire, il y a 30 ans, on pensait que le monde allait s'organiser autour de quelques grands ensembles, l'Europe, les Amériques, l'Asie du Sud-Est. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était le Japon qui devait être le leader de l'Asie du Sud-Est. Ces grands ensembles développaient le libre-échange en leur sein, mais ensuite commercer progressivement entre eux avec des conditions qui restaient à définir. On a sauté cette étape, on est passé d'un coup à la globalisation.
Mais d'accord. Hein,
le commerce dans tous les sens, n'importe comment, etc. Bon, sans règles, sans aucune règle. Dumping fiscal, social, monétaire, environmental.
Hein. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudra revenir à un minimum de règles qui s'appliqueront.
Le président Giscard d'Estaing fait une interview il y a une quinzaine de jours. On va revenir à un commerce régional. Jimmy Goldsmith, dans les années 90, je cite une de ses interviews qui était prémonitoire dans la Tribune à l'époque, expliquait pourquoi il avait été contre Maastricht et pourquoi il était contre cette globalisation et ces délocalisations. Il disait « Je suis pour le libre-échange régional parce qu'on est à peu près dans les mêmes normes de concurrence. Mais si vous ouvrez les frontières, ce qu'a fait l'Europe naïvement, si vous ouvrez brutalement les frontières, eh bien, moi, mon intérêt de capitaliste, c'est d'aller produire du meuble au Vietnam ou en Chine oui. et d'importer. Et là, je vais gagner des fortunes. Et j'aurai supprimé les emplois en Europe. » Bon, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
Oui. Enfin, l'extrême limite, c'est quand tous les produits d'une région seront tous exportés et que tous les biens de consommation viendront en importation de notre point du monde.
Ben là, c'est ce qui commence à arriver.
C'est ce qui commence à arriver.
C'est ce qui commence à arriver. Et avec un coût de pollution qu'on a complètement passé sous silence. Parce que les émissions de gaz à effet de serre, hein, qui sont responsables quand même en partie du réchauffement climatique, ben, le transport, croyez-moi,
ça
pollue énormément. Mmh. Hein. Ça pollue en CO2, ça pollue aussi en accident. Les bateaux, les mers deviennent des poubelles,
oui. hein,
avec des bateaux qui sont des norias de bateaux, de porte-containers. Ça ne peut pas continuer comme ça.
C'est évident que de continuer de consommer à Noël des cerises qui viennent du Chili en avion...
Exactement, c'est absurde.
C'est totalement
importer
absurde.
Importer des haricots verts de Chine est absurde.
Oui, oui, tout à fait. Donc on reviendra, selon vous, et je pense, je partage cet avis, vers une approche beaucoup plus régionale et beaucoup plus, on va dire, lucide des choses. Alors justement, on est dans la partie des solutions. Alors, vous avez trois grands axes sur lesquels on peut revenir assez rapidement. Tout commence, mais ça, je crois que c'est une évidence, mais ça mérite que vous la souligniez, par le Moyen-Orient. Et la croissance, elle repose d'abord sur la paix. Et
donc, on n'en parle plus beaucoup depuis la crise financière, mais c'est vrai quand même que... On a eu un espoir hein, dans les années 90, au moment de la mondialisation triomphante, Clinton s'y était attaché, à voir avec Rabin et Arafat et Shimon Peres qu'on allait pouvoir signer la paix. Et puis Isaac Rabin a été assassiné et le processus s'est complètement inversé. Hein, et la haine a succédé à l'espoir de paix. Bon, on ne peut pas avoir cette espèce de cancer au cœur de la société. Et en plus... C'est vrai que par rapport aux milliards de musulmans et au monde arabe, Israël, quelque chose qui... C'est difficile à expliquer, mais
c'est
je crois...
C'est un facteur de fixation.
C'est un facteur de fixation, et en même temps, ça les met dans un processus psychologique de victimisation. Hein, et donc, ça devient l'objet de tous les maux. Il faut régler ce problème, une bonne fois pour toutes. Alors, c'est compliqué, c'est difficile, mais chacun devra mettre de l'eau dans son vin. Je pense que la disparition de l'URSS a été mauvaise, car... Si l'URSS avait encore existé, je crois qu'Arafat aurait signé à Camp David à la fin des années 90, parce que l'URSS l'aurait obligé à signer.
Non, il aurait pesé sur la...
Voilà, le parrain l'aurait obligé.
D'accord.
Là, ils n'ont plus de parrain. Hein. Peut-être que la Russie va revenir dans le jeu, ce qu'elle essaye de faire. Et notamment les problèmes avec l'Iran. Je pense que la Russie peut jouer un rôle, joue un rôle important par rapport à l'Iran. Il va falloir refaire de la diplomatie. Il faudra qu'Israël apprenne aussi à mettre de l'eau dans son vin.
Oui, donc vous êtes quand même relativement optimiste en disant que le processus pourrait se réengager.
Ça peut se réengager si les gens regardent devant, ils sont, je dirais, un peu plus vertueux, oui, hein, et font un peu plus de diplomatie au bon sens du terme et non pas des moulinets.
Très bien. Donc, dans les autres solutions, New Deal américain, on en a dit un mot, oui, qu'on peut rappeler. Une Europe reconstruite, pour vous, c'est important.
Oui. Alors, je pense que ce que fait Nicolas Sarkozy est intéressant. Bon, on voit clairement que, personnellement, j'étais contre l'élargissement. Voilà. J'estimais que c'était une erreur que les anglo-saxons, hein, nous ont poussé à faire, pour des tas de raisons. Bon, l'Europe a perdu son âme quand elle a passé de... On pourrait même dire qu'elle a presque perdu son âme quand on a fait rentrer la Grande-Bretagne. Bon. Mais elle a perdu son âme quand on est passé de 15 à 27. Je veux dire, avec des pays qui n'ont pas le même passé, le même vécu, la même philosophie sur l'Europe. On peut parfaitement comprendre leur point de vue. Je veux dire. Mais ce n'est pas forcément le nôtre. Non. Donc, on aurait dû les associer, faire un premier cercle concentrique. De la même façon, comme ça, on aurait pu intégrer la Turquie sans poser trop de problèmes. Bon. Le vin est tiré, il faut le boire. Reste, je suis partisan des cercles concentriques. Bon, donc ça peut être à 4, à l'Eurogroupe, ça peut être, il faut faire par exemple un G7. Schengen de l'énergie. Hein. Il faut qu'on avance, il faut que les pays qui veulent avancer sur un projet commun puissent avancer, ne soient pas bloqués par les autres. Hein. L'énergie, il va falloir remettre ça sur le tapis. Hein. Arrêter dans la dérive ultralibérale de vouloir tout libéraliser. Hein. Nous avons des grandes entreprises comme EDF qui sont la chance de l'Europe, de la France et de l'Europe. Bon, et ben, ne les cassons pas, ne les détruisons pas. Il faut investir énormément dans l'énergie. Bon, bien, laissons les entreprises et les États qui le veulent investir. On veut faire du nucléaire, il faut faire du nucléaire. Si les Allemands ne veulent pas faire du nucléaire, c'est leur problème. Mais alors ensuite, ils ne viennent pas nous faire supporter leur déficit énergétique.
Oui, donc ça veut dire qu'il faut avancer par cercle
et sujets concrets.
Et donc, dernier point, la France, on y revient. Vous avez évoqué le mal français. Mais vous évoquez dans les solutions les atouts aussi de la France et vous insistez en particulier sur l'agriculture, oui, sur l'énergie et puis quelque chose, bien sûr, c'est l'agriculture redevient face à face avec ses finalités, c'est-à-dire c'est de nourrir le monde. Et donc on sait que la France...
Nourrir le territoire et accessoirement le monde.
Le monde, d'accord. Premier point. Deuxième point, l'énergie, c'est vrai qu'avec le côté nucléaire, oui, nous sommes très très en avance et certainement que c'est un mode de remplacement.
Oui,
de...
mais il faut réinvestir massivement.
Ah, c'est ça. Alors donc on est en retard, donc on y revient.
Oui. Parce que ces dernières années, l'un des principaux reproches que je fais à cette globalisation et à ce qui a dérapé il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on n'a pas investi sur le long terme. On a privilégié le court terme, ouais, l'appât du gain immédiat.
Comme les traders.
Que les traders, mais c'est ça. On a fait de l'argent avec de l'argent et on n'a pas investi à long terme. Que ce soit les investissements collectifs, mais aussi les grandes entreprises. Elles ont privilégié l'investissement immédiat, l'innovation, l'obsolescence programmée des nouveaux produits, mais sur la recherche fondamentale, on n'a rien fait.
Ouais.
Donc on a énormément de retard. Là.
Donc il faut reprendre la main sur ce sujet. Et enfin, et voilà, vous terminez en disant quelque chose qui est très, très amusant, mais je pense que c'est une piste intéressante. Il faut recréer un snobisme du Made in France. C'est valable pour le luxe, mais c'est aussi pour de multiples autres fabrications. Nous avions un artisanat de qualité, il faut le revivifier. Page 295. Donc effectivement...
Je pense au métier d'art, notamment.
Au métier d'art, il y a beaucoup de choses.
Et je pense au drame de tous ces artisans qui avaient un savoir-faire reconnu mondialement, hein, et qui aujourd'hui n'arrivent plus à le transmettre à de jeunes apprentis. Ça. On a liquidé tout ça parce que travailler de ses mains, c'est absurde. Vous savez, les artisans, ils gagnent très bien leur vie. Ils sont très demandés dans le monde entier. Il n'y a pas de raison que nous abandonnions, que Paris, la France, abandonne son savoir-faire dans ce domaine.
Une façon d'éviter le pire, ce que vous dites en page 299, le pire, ce serait le triomphe d'un système où le capitalisme n'irait plus de pair avec la démocratie, mais avec le totalitarisme, un peu à l'image de ce que fut le Chili de Pinochet et de ce qu'est la Chine aujourd'hui. Mais vous pensez quand même qu'on va échapper au pire?
Oui, le pire n'est jamais sûr. Mais il faut lutter pour éviter le pire.
D'accord. Bien, écoutez, c'est sur ce bon mot que nous allons terminer notre entretien avec donc notre auteur, Jean-Michel Quatrepoint, qui fait paraître aux mille et une nuits la crise globale. On achève bien les classes moyennes et on n'en finit pas d'enrichir les élites. C'est 17 euros pour 300 pages.
300 pages toujours.
Donc merci à vous. On a senti votre passion, de journaliste, votre passion d'auteur. Et c'est très agréable dans ces moments de grand doute. Merci encore à vous et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne. À bientôt.